Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque pour ce très beau colloque qui touche à sa fin. Donc vraiment un grand merci. Alors, le micro ?
Oui, l'approcher.
C'est bon là ou... Oui. Donc je vais travailler sur un corpus juridique, à savoir un corpus de décision de justice sur lequel je reviendrai dans quelques minutes pour vous expliquer exactement quel est le corpus sur lequel je travaille. Mais avant, je voudrais quand même rebondir sur la question de emploi métaphorique ou pas du terme de censure. Je me suis posé la question puisque Éric Bordas a commencé son intervention en disant que c'était un emploi métaphorique du terme de censure. Alors dans un corpus juridique contemporain, la question mérite d'être posée. Je crois que c'est un parti pris presque axiologique actuellement de dire si c'est de la censure au sens strict ou bien si ce n'est pas de la censure. Donc le terme de censure à notre époque contemporaine est un terme qui a des connotations péjoratives évidentes. Certains juristes d'ailleurs appellent à dissocier la question du droit de la presse, du droit des romans, de la question de la censure en considérant qu'à partir du moment où on l'aborde en termes de censure, on rate en fait, on rate les enjeux de la question du droit de la presse. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour commencer. Donc je ne trancherai pas, est-ce que je vais vous parler véritablement de censure au sens institutionnel ou bien de censure au sens métaphorique, je ne trancherai pas. Alors pourquoi ce titre, le style comme bouclier juridique, l'argument du style dans quelques procès de fiction contemporains? Cette expression n'est pas de moi. Donc elle vient d'un avocat spécialiste du droit de la presse qui s'appelle Vincent Toledano, qui a écrit un article sur la question des procès de fiction à l'époque contemporaine en 2013. Donc cet article, il est cité dans les citations 1 et 2 de mon exemplier. Donc c'était en 2013, suite au procès de Christine Angot et Lionel Duroy. En quelques temps, on a eu plusieurs procès de fiction qui ont beaucoup fait parler d'eux, et c'est la raison pour laquelle la presse a commencé à s'y intéresser. On a interrogé des avocats pour savoir un peu comment ça se passait au tribunal et quelles catégories étaient mobilisées par les juristes. Vincent Toledano nous dit, c'est le titre du paragraphe de la citation 1, que le style constitue un bouclier juridique au tribunal. Cette affirmation est très étonnante et j'essaierai d'y revenir tout à l'heure en m'interrogeant sur cette question, à savoir si c'est véritablement un bouclier juridique. Il dit en effet, je ne lirai pas toutes les citations, que pour lui, le mérite de l'œuvre joue en faveur d'un auteur. C'est donc un juriste qui dit cela. Et pourtant, c'est très surprenant de la part d'un juriste et c'est loin d'être une position consensuelle sur la question du droit de la fiction. Dans le même article, Vincent Toledano développe son argumentation en comparant Angot et Proust. Donc pour lui, c'est la citation 2, Angot serait plus difficile à défendre que ne l'aurait été Proust, parce qu'elle aurait un style littéraire moins perceptible. Donc voilà ce qu'il dit. Le problème avec Christine, c'est qu'il faut montrer ce que sa littérature apporte comme distance. Quand on écrit au scalpel comme elle, c'est difficile. Quand Proust noie la vie privée de ses amis dans un phrasé floral, elle est moins perceptible que chez Angot. Autrement dit, on voit bien que par cette métaphore du scalpel pour désigner le style de Christine Angot, il a l'idée d'une écriture crue, qui va droit au but, dont la violence n'est jamais atténuée, là où Proust, avec son phrasé floral, aurait une langue plus figurale. Et donc, si l'on pousse la logique, c'est l'idée que plus un auteur s'approcherait de la langue commune, moins le principe de l'exception littéraire pourrait être avancé. Donc c'est l'idée qui ressort de cet article. Je vais donc maintenant essayer de confronter ce questionnement à la jurisprudence et aux décisions de justice que l'on peut lire depuis les années 2000. En effet, cette formule peut surprendre quand on sait précisément que, à notre époque contemporaine, contrairement à ce qu'on a vu pour la congrégation de l'index, c'est qu'en droit de la presse, le juge, le grand principe, et qu'il ne doit pas faire de jugement de valeur. C'est le grand principe qui régit le droit de la presse. Or, le style ici, on voit bien, tel qu'il est défini dans l'article où Vincent Toledano s'exprime, semble relever du jugement de valeur. Un jugement de style relevant de l'idée du mérite d'une œuvre littéraire. Il y a donc là un paradoxe et donc que je vais essayer d'aborder à travers un corpus. Donc un corpus que je vais aborder plutôt en termes d'analyse du discours, c'est-à-dire que j'utilise les décisions de justice comme corpus principal sur lequel je m'appuie, et mon projet aujourd'hui est de faire, là je vais citer, je reprends exactement le projet d'Éric Bordas dans son livre « Style, un mot et des discours », je vais citer Éric Bordas dans son introduction, qui a pour ambition de faire le point sur nos usages contemporains du mot style. Alors moi, je n'ai pas une ambition aussi vaste, mais c'est l'ambition que j'ai de faire le point donc, sur les usages contemporains au tribunal du mot style dans les procès de fiction. Donc, du point de vue de la méthode, j'ai essayé de relever les occurrences du terme de style dans les décisions rendues depuis les années 2000. Mais je ne me suis pas contentée du terme de style, j'ai essayé aussi de rechercher des termes qui me paraissaient équivalents. Donc il faut savoir que je ne travaille pas du tout avec... Je lis les décisions de justice, ce n'est pas du tout informatisé ma recherche. Donc lorsque je trouve un mot qui me semble pouvoir s'approcher de la problématique du style, je le retiens dans mon corpus. Donc il n'y a rien de systématique du type entrée à partir de la base style. C'est ce qui m'a permis de relever des termes comme langue littéraire, procédé littéraire, manière de dire forme. Donc toutes ces occurrences-là entrent aussi dans mon corpus. Alors, donc la question que je me poserai, c'est quel discours l'usage du mot sert-il à mettre en place ? Est-ce qu'il y a une méthode d'analyse à laquelle l'usage du terme est adossé ? Et surtout, une autre question, est-ce que l'apparition du terme doit être interprétée comme le signe d'une liberté de création qui commencerait à trouver ses catégories ? Est-ce que dans la jurisprudence, on aurait tendance actuellement à reconnaître que le mérite de l'œuvre littéraire joue et qu'un principe d'exception pour la littérature pourrait s'exercer ? Mais il me semble qu'avant de commencer à répondre à ces questions, il faudrait peut-être que je fasse un petit point sur le dispositif juridique. Donc là, je vous interroge, est-ce qu'il est clair pour tout le monde ou il vaut mieux que je rappelle en trois mots pourquoi on juge des romans en France ? Alors, il faut donc savoir que depuis 1999, en France, au tribunal de Paris, il existe une chambre qui s'appelle la 17e chambre, qu'on appelle aussi la chambre de la presse, dans laquelle on juge presque toutes les infractions de discours. C'est-à-dire qu'à la 17e chambre, on juge tous les discours publiés. Il faut que pour qu'un discours soit examiné en droit, il faut qu'il soit publié. Mais ce discours peut être tenu sur n'importe quel support, d'accord ? Donc à la 17e chambre, on peut très bien juger une publication sur Facebook, on peut juger quelque chose qui est écrit dans la rue, mais ça peut être aussi un roman. Donc il n'y a aucune spécificité de la littérature au sein de la 17e chambre. Et la 17e chambre a un double rôle, à la fois protéger la liberté d'expression, qui est protégée depuis la loi de 1881, en fait, c'est ce qu'on appelle le droit de la presse. Donc, en droit de la presse, il y a une grande loi qui régit toutes les infractions de discours, qui s'appelle la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, voilà le nom de cette loi, qui prévoit donc une protection de la liberté d'expression. Mais en même temps qu'on a affirmé la liberté d'expression en France, on a aussi prévu des restrictions à cette liberté d'expression, qui sont aussi prévues dans cette loi de 1881. Donc, les principales infractions sont l'insulte, l'incitation à la haine, ça peut être à la haine raciale, à la haine d'une minorité, donc ça peut être à la haine d'une communauté religieuse, ça peut être à la haine des homosexuels, à la haine des handicapés, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Et puis, par ailleurs, il y a aussi la diffamation. Ce sont les grandes infractions qui sont prévues par la loi de 1881. Autrement dit, c'est une loi qui à la fois protège la liberté d'expression et la garantit dans notre pays, et en même temps prévoit des restrictions. Donc le juge, son rôle est un rôle double. À la fois, il doit la protéger et en même temps voir s'il y a une infraction. Et il fait ce qu'on appelle une balance. Donc il doit protéger la liberté d'expression et il doit voir ce qui pèse le plus lourd. Est-ce qu'il vaut mieux, dans chaque espèce, privilégier la liberté d'expression ou bien privilégier l'infraction ? Est-ce que l'infraction est plus lourde que la liberté d'expression. Voilà ce qu'on appelle faire une balance. Donc ça, c'est la première grande loi, vraiment le dispositif qui permet de juger la plupart des infractions. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, je ne peux pas non plus tout aborder ici, mais il y a aussi un autre texte que je voudrais quand même aborder avec vous très rapidement, parce qu'il est très utilisé à la 17e Chambre. C'est un article du Code civil qui est entré en 1970 dans le Code civil, donc c'est très récent, c'est sous l'influence de la jurisprudence. Cet article, c'est l'article 9 du Code civil, qui prévoit le respect de la vie privée. Donc la vie privée, hein, du point de vue de la jurisprudence, a pris une ampleur telle que c'est entré dans le code civil et désormais on peut attaquer le locuteur d'un discours qui porte atteinte à la vie privée d'autrui. Alors cette catégorie de la vie privée, il faut savoir qu'elle est reconnue par tous les juristes comme particulièrement floue, parce que qu'est-ce que la vie privée, hein ? Mais on s'accorde à dire qu'elle recouvre en général tout ce qui a trait à la vie amoureuse, la santé, les sentiments, les opinions ou les pensées. Vous aurez reconnu ici les ingrédients privilégiés de la matière romanesque. C'est bien la raison pour laquelle les procédures pour atteinte à la vie privée sont les procédures les plus courantes lorsqu'on a des procédures contre des romans. Donc pour récapituler, on peut donc voir ici qu'il n'y a pas de droit de la littérature en France. Hein, donc ça n'existe pas, il n'y a pas d'exception littéraire. Les textes de loi ne prévoient pas de spécificité hein, de tel ou tel discours. Il n'y a aucune exception dans la loi. En revanche, depuis les années 2000, dans la jurisprudence, est apparue une catégorie à part. Alors vous allez voir que cette présentation rejoint la question du style, hein, rassurez-vous. Donc une catégorie à part qui s'appelle la liberté de création. Donc il y a cette idée que la création est menacée en France et qu'elle doit être encore plus protégée que la liberté d'expression. Donc par exemple, hein, là j'ai cité, c'est la citation 3, c'est un principe qui est très souvent rappelé dans les décisions de justice, hein, ce principe conventionnel et constituel de la liberté d'expression doit être d'autant plus largement apprécié qu'il porte sur une œuvre, la création artistique nécessitant une liberté accrue de l'auteur qui peut s'exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc là, c'est juste une décision de justice, hein, ça n'a aucune valeur prescriptive, mais c'est pour dire que la liberté de création figure maintenant dans presque toutes les décisions de justice. Hein. Donc elle devrait être plus forte que la liberté d'expression. Alors, ce n'était pas inscrit dans un texte de loi jusqu'en 2016. En juillet 2016, sous l'influence, donc c'était Aurélie Filippetti à l'époque, hein, ministre de la Culture, on a promulgué une loi qui s'appelle la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, on l'appelle aussi LCAP, et cette loi est censée protéger la création. En réalité, tous les juristes disent qu'elle ne va rien changer, puisque la question fondamentale est de savoir ce qu'est une création pour pouvoir faire admettre la liberté de création. C'est donc la raison pour laquelle les juristes s'interrogent sur ce qu'est la création. Hein, on voit beaucoup de juristes écrire, reprendre des théories littéraires pour essayer de définir une spécificité de la création artistique qui permettrait aux juges protéger les créations davantage que les expressions banales, hein, les autres types de discours. Donc ce principe est partagé hein, dans l'ensemble par les juristes qui travaillent en droit de la presse et en même temps, il manque des critères d'appréciation objectivables. Or, pour la question de la littérature, c'est là que ça nous intéresse par rapport à la question du style. On sait très bien que qui dit œuvre littéraire dit style. On attache très souvent la notion de littérature à la notion de style. Pour paraphraser Compagnon, hein, chasser le style par la porte, il rentrera par la fenêtre, où il dit aussi hein, « la langue littéraire, tel est le lieu commun, se caractérise par son style ». En contraste avec la langue de tous les jours qui manque de style. Donc si on veut faire admettre l'idée qu'on est face à une création de la littérature qu'on juge, est-ce que du coup, dans la jurisprudence, on voit émerger la catégorie du style ? Alors, tout d'abord, très rapidement, avant d'en arriver aux décisions de justice, pour le sens commun, il faut savoir que quand une œuvre fait scandale, qu'elle est condamnée, ou bien, au contraire, encensé d'un point de vue moral, la catégorie, le critère du style est très souvent mobilisé. Donc là, je peux aussi encore citer Éric Bordas, hein, qui dit que le critère du style est une arme de rejet et de condamnation. Et dans la presse, elle joue très souvent ce rôle. J'avais travaillé sur Belle et Bête de Marcella Yacoub dans un article précédent qui a fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Hein. Mais avant la condamnation judiciaire, il y a eu un débat dans la presse pour savoir si Marcella Yacoub avait le droit de raconter sa vie sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn. Or, dans la presse, le critère du style était très souvent mobilisée. Hein. Dans l'ensemble, ceux qui condamnaient le projet de Marcella Yacoub disaient qu'elle écrivait comme un pied, ceux qui, au contraire, défendaient son projet, glorifiaient son style. Donc, du point de vue du sens commun, hors tribunal, le critère du style est un critère très souvent mobilisé pour défendre la morale d'une œuvre. Alors, dans le domaine du droit, tous les acteurs du droit de la presse vous diront, contrairement à Vincent Toledano, je ne comprends pas pourquoi il dit ça dans cet article, que le terme de style n'a pas le droit de citer au tribunal. Hein, c'est-à-dire que le principe est simple, il n'appartient nullement au juge d'apprécier la qualité d'une œuvre littéraire. Hein, ça ne doit pas entrer dans son évaluation. Et ce principe est rappelé sans cesse dans les décisions. Donc à la fois on dit qu'il faut protéger la liberté de création et en même temps le juge ne cesse de dire que le juge n'a pas à se prononcer sur le caractère littéraire d'une œuvre. Donc le style semble ne pas pouvoir jouer, en tout cas comme catégorie axiologique. Pourtant, on trouve le mot dans certaines décisions et donc la question se pose de savoir quel est le rôle alors du mot dans ces décisions. Alors, dans certains cas, comme dans le cas de la citation 4, il n'y a pas le mot style, mais il y a la question de la valeur littéraire ou artistique qui est abordée dans la décision de justice. Donc, c'est le cas de Houellebecq ici. Si le propos développé par l'auteur défendeur, agrémenté de scènes sexuelles complaisamment décrites, peut certainement apparaître incongru, choquant ou révoltant, l'ouvrage en cause n'en est pas pour autant dénué de toute valeur artistique ou littéraire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Exactement ce que je disais dans le sens commun, à savoir qu'il est choquant, révoltant, et pourtant il y a une valeur artistique. Alors ce passage n'est pas véritablement ce qu'on appelle un motif d'une décision. Il me semble que ce passage a surtout un impact psychologique. J'ai interrogé des juges sur ce type de passage en essayant de comprendre pourquoi, alors que d'un point de vue juridique ça ne peut pas motiver une décision, pourquoi il y avait ce genre de passage. L'idée étant que c'est une façon de faire une concession aux défendeurs de la liberté de création, puisque ça donne l'impression que le juge a tenu compte de la création artistique, mais en réalité, d'un point de vue juridique, il n'en est rien. Hein, ce n'est pas un argument juridique. Et il faut avoir en tête, lorsqu'on lit une décision de justice, la dimension psychologique de certaines mentions dans une décision de justice, puisque le justiciable lit la décision de justice et il a besoin d'avoir été entendu et de ne pas lire une décision injuste. Donc évidemment, un écrivain qui est condamné a envie d'entendre que son œuvre a été lue comme un roman et non pas comme une publication Facebook. Mais d'un point de vue juridique, ici, il n'y a rien. Cette question de la valeur n'entre pas du tout en compte dans cette décision. Alors, tous les acteurs du droit de la presse que j'ai interrogés, que ce soit des responsables de services juridiques de maisons d'édition, des avocats en droit de la presse, des juristes, des magistrats, ont tous dit que le style n'était pas un argument. Autrement dit, le style n'est pas un bouclier juridique pour eux, en revanche, dans leur activité de conseil, ils s'interrogeaient sur la question du style, et j'y reviendrai à la fin de ma communication. Donc, je crois que là, le propos est simple, le style ne devrait pas intervenir au tribunal. Cependant, la réalité apparaît plus complexe. Et il me semble que si on observe ce qu'ont fait les décisions de justice rendues notamment à la 17e chambre depuis les années 2000, il y a eu tendance, malgré tout, une certaine tendance de la présidente du tribunal de la 17e chambre à faire entrer le critère du style dans certaines décisions qui nous paraissent étonnantes. Il me semble qu'une avocate qui s'appelle Agnès Tricouard a eu une influence déterminante dans la façon dont le style a pu entrer au tribunal. Donc ici, je vous ai mis en citation 5 une analyse de Agnès Ricoeur qui essaie d'expliquer, selon elle, comment un juge doit procéder pour juger une œuvre littéraire. C'est une analyse critique dans laquelle le juge doit mettre de côté sa propre sensibilité pour éviter d'émettre un jugement de goût, mais doit dans le même temps ne pas dénier à l'œuvre ce qui fait qu'elle est œuvre, et non pas article de presse ou discours politique. Donc à la fois on dit mettre de côté sa propre sensibilité, et en même temps, on doit faire, le juge hein, devrait faire en sorte de ne pas dénier à l'œuvre ce qui fait qu'elle est œuvre. Donc ici, on voit bien que c'est peut-être, et mon hypothèse est que le terme de style, dans certaines décisions qu'on va lire, est peut-être précisément ce qui, pour certains juristes, permettrait de montrer qu'ils tiennent cet équilibre précaire entre pas de jugement de goût et respect hein, et du caractère artistique de l'œuvre. Alors, dans certaines injonctions, ensuite, d'observateurs, hein, de juristes observateurs du droit de la presse, on peut lire encore le terme de style. Alors là, ce sont les citations 6 et 7, donc tout, déjà Agnès Ricoeur hein, qui dit dans la citation 6, « Cette analyse, et c'est le reproche que l'on peut faire à la jurisprudence contemporaine, doit passer par la forme, le style. » Deuxième citation, Édouard Trépoz, hein, qui est aussi un professeur, qui lui est professeur de droit, spécialiste de ces questions. Le juge ne peut en effet se satisfaire de la déclaration unilatérale de l'écrivain selon laquelle son œuvre serait un roman. Il doit plus profondément scruter le projet, le contenu et le style. Alors qu'est-ce que l'on voit dans ces deux citations, qui sont des injonctions pour faire respecter la liberté de création? C'est une vieille opposition fond-forme, hein, c'est-à-dire ici, contenu, style. Mais pourquoi on n'a pas fond et forme? Il me semble que le terme de style, ici, est utilisé pour ses connotations. Hein, c'est-à-dire, qui dit style, dit littérature. Puisque, surtout, hein, ce qui est frappant dans, dans la première citation, c'est qu'on a la forme puis le style. Hein, le fait que ces deux termes soient juxtaposés montre bien qu'on a besoin du terme de style pour montrer qu'on est en train de parler d'œuvres artistiques et pas seulement de discours comme les autres. Alors, justement, dans la jurisprudence, en 2006, on trouve la mention du style dans les motivations de la relaxe d'un roman qui s'appelle Pogrom. Est-ce que vous avez ce roman, peut-être que je rappelle ce que c'est. C'est un roman de Éric Beigné-Burkel, dans lequel il met en scène un antisémite, hein, qu'il nomme l'inqualifiable, et qui tient des propos antisémites absolument terribles. Mais il a été relaxé parce que ce personnage est fictif et que ce personnage, il l'appelle l'inqualifiable et donc il y a une distance entre l'auteur et les propos de son personnage. Bref, là, dans la décision de justice, il est écrit la chose suivante. Il résulte des critiques parues dans divers organes de presse, comme de l'attestation rédigée par Frédéric Becbédé, que Pogrom est bien une œuvre littéraire, définie par son projet, son contenu et son style, qui entre dans la catégorie roman. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans cette citation? On voit plusieurs termes hein, empruntés à l'analyse littéraire. Œuvre littéraire, la question du roman, mais aussi la mention de critique élogieuse dans la presse. Hein, la mention de critique élogieuse dans la presse, plus une attestation rédigée par Frédéric Becbédé. Donc, dans ce passage, hein, il me semble qu'il y a la volonté du juge de faire figurer la question de la littérature dans la décision de justice. Hein. On voit bien que ce paragraphe est saturé par les expressions qui renvoient à la littérature pour montrer que la liberté de création a été véritablement prise en compte. Mais là, je crois être dans le même cas que tout à l'heure. C'est un mot qui me semble être plus utilisé pour ses connotations que pour sa véritable valeur opératoire. De la même façon, hein, pour procédé littéraire, dans la citation 9, je crois qu'il y a exactement la même chose. Il n'y a donc pas lieu d'évaluer le mérite. Là, c'était un roman de Patrick Poivre d'Arvor où il mettait en scène son ancienne maîtresse. Il n'y a donc pas lieu d'évaluer le mérite de l'œuvre, donc principe que j'ai rappelé tout à l'heure, mais en premier lieu d'analyser son dispositif formel, les procédés littéraires utilisés par l'auteur devant permettre au lecteur de ne pas confondre réalité et fiction. Ce que je trouve frappant ici, c'est que le terme littéraire ne sert à rien. On pourrait très bien avoir les procédés utilisés par l'auteur devant permettre au lecteur de ne pas confondre réalité et fiction. Ils peuvent ne pas être littéraires, ces procédés. Donc ici, on voit bien qu'en mentionnant le terme littéraire, c'est plutôt, encore une fois, un terme qui est utilisé non pas pour sa signification, puisque en réalité il ne désigne rien de plus que procédé, mais plutôt comme, et là je pour citer Eric Bordas, hein, il me semble hein, qu'il y a que le mot style ou bien procédé littéraire vaut plus pour la valeur de la mention, et notamment sa valeur culturelle, qui se suffit à elle-même, qui devient un symbole indépendamment du sens même du mot. Hein. C'est une façon, là encore, il me semble que c'est la dimension psychologique qui est privilégiée ici en utilisant ces mots pour donner des gages aux défendeurs de la création littéraire. On peut aussi citer, alors je ne sais pas pourquoi ça a disparu de mon exemplier, pourtant c'est un passage que je trouve assez savoureux. Donc dans la décision qui a condamné Christine Angot lorsqu'elle a mis en scène l'ex-compagne de son amant, elle a été condamnée, et voici ce qui est écrit dans la condamnation. Cet ouvrage peut être divisé en deux parties. La première, décrivant dans un style épuré et du point de vue du personnage masculin, biliférier, etc. Alors dans un style épuré, évidemment, du point de vue du droit, ça ne change rien à l'affaire. Donc on ne motive absolument pas la décision en évoquant le style épuré. En revanche, hein, la mention du style ici montre bien la sensibilité du tribunal à la nature littéraire de l'ouvrage. En revanche, ici, on voit bien aussi que c'est une expression stéréotypée. Hein. Je pense que le style épuré, ce serait intéressant de faire une étude, mais c'est peut-être l'expression qui revient le plus fréquemment lorsqu'on s'agit de caractériser le style d'un auteur. Donc ici, ça n'apporte rien d'un point de vue juridique, mais c'est présent dans la décision de justice. Hein. Il faut penser qu'une décision de justice, les motivations, c'est 5-6 pages. Hein. Donc pour que ce soit présent, c'est qu'on considère qu'il faut que ce soit présent, et donc que ça c'est, là, c'est bien là pour quelque chose. Donc, mon hypothèse hein, étant que la plupart du temps, le terme de style est là pour donner des gages aux défenseurs de la création littéraire. Mais il y a des fois où la catégorie du style me semble, en revanche, adossée à une méthodologie spécifique. Et dans ce cas, hein, le terme de style n'a pas le même sens. Il apparaît dans des passages plus descriptifs, où il a une volonté de caractériser la forme. Et là, le juge devient hein, un analyste des techniques d'expression. On peut dire que dans ces passages, le juge fait de la stylistique ou bien de la linguistique textuelle, enfin toutes ces disciplines qui servent à décrire les discours. Alors j'en ai mis quelques exemples. Hein. Par exemple, donc, la citation 10, c'est un passage un peu long, je ne préfère pas le lire en entier pour ne pas perdre de temps. Je rappelle juste le contexte hein, de cette citation. J'en ai parlé très rapidement face à Thomas Hochmann la dernière fois, mais tout le monde n'était pas là, donc je rappelle très vite. Donc c'est une affaire qui allait jusqu'à la Cour de cassation, où il s'agissait de poursuivre pour incitation à la haine une militante Front National qui a publié des propos sur le site boulevardvoltaire.com, un site hein, qui n'a rien à voir avec la littérature. C'est un site d'opinion d'extrême droite et qui est connu pour cela. Alors, précisément, l'avocat de cette militante hein, du Front National a donné comme argument au juge que cette femme hein, s'exprimait dans un style onirique et que le style onirique permettait de mettre une distance suffisante et que l'auteur ne pouvait pas être condamné, ne pouvait pas être tenu responsable de ce qui était prononcé dans un rêve. Donc pour résumer, hein, elle disait en gros, je rêve que les musulmans aient le choix entre abdiquer leur religion ou bien rester, ou bien quitter notre pays s'ils n'abdiquent pas leur religion. Et elle utilisait le futur. Dans la décision de la Cour d'appel qui est reprise par la Cour de cassation, il y a ici la question du style onirique. Les prévenus ne peuvent se prévaloir du style onirique invoqué pour échapper à leur responsabilité. Alors, dans la citation 11, il me semble qu'on a à peu près un même usage de style, mais c'est le terme stylistique. Hein. Ici, c'est par rapport à Golgotha Picnic. Alors, c'est pas évident pour moi, parce qu'il faut à chaque fois que je vous rappelle les affaires. Hein. Golgotha Picnic, c'est une pièce de Rodrigo Garcia qui a été mise en scène au Théâtre du Rond-Point il y a quelques années, qui donne une image très dévalorisante du Christ. Donc, il y a eu une, d'ailleurs plus que dévalorisante, hein, je vous laisse aller regarder la captation si vous avez envie de voir de quoi il s'agit. Il y a une association assimilée à l'extrême droite, hein, la Griffe a porté plainte s'est portée partie civile, hein, contre le directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, qui avait programmé cette pièce. Le motif étant incitation à la haine des chrétiens. D'accord ? Donc là, c'était ça l'enjeu du débat. Et Jean-Michel Ribes et l'éditeur, hein, Vurpillo, ont été relaxés. Et voici ce qui est dit dans la décision de justice. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est toujours difficile quand on présente des corpus, des corpus juridiques. En fait, dans une décision, on doit motiver. Hein, on doit motiver une décision. Donc là, on est dans des passages argumentatifs où le juge développe les raisons pour lesquelles, en termes juridiques, il a condamné ou bien relaxé l'auteur. Alors, voici ce qu'on trouve. Hein. Force est toutefois de constater que si ces propos, au moins pour certains d'entre eux, ont pu et peuvent de fait paraître provoquants pour certains lecteurs, tant par les termes utilisés parfois crus ou grossiers que par la stylistique ou les thèmes retenus, qui tranchent avec une vision plus traditionnelle du personnage du Christ. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans le paragraphe ? Je vous l'ai mis en gras. Irrévérence, goût de la provocation, dimension humoristique ou satirique. Donc il me semble ici que le terme de style renvoie plutôt à un registre. Hein. Ici, il s'agit de qualifier un registre ou bien une attitude énonciative, ou on peut encore parler de propriété énonciative. Hein. Et donc que le style ici recouvre la catégorisation d'un genre d'énonciation et qui permet de comprendre le cadre dans lequel le propos a été tenu. Donc ça, c'est un élément fondamental, hein, de l'analyse de ces discours par le tribunal, savoir dans quel cadre les propos ont été retenus. Donc la question de mentionner un style, une propriété d'énonciation, c'est pour savoir si c'est dans la satire, si c'est le style du rap, etc. Et donc on va trouver ce type d'occurrence dans ces moments-là. Et puis enfin, dans d'autres cas, il me semble que les termes de style et de stylistique sont accompagnés, hein, de descriptions de procédés précis qui rejoignent vraiment là pour le coup de très très près l'analyse des détails formels tels qu'on peut les faire à l'université. Alors je pense par exemple donc aux citations 12, 13, 14 qui sont toutes issues de la décision qui a été rendue dans le cadre de l'affaire La Ballade de Rikers Island de Régis Joffray. Donc là, c'est pareil, je rappelle ce que c'est. Régis Joffray a écrit un roman suite à l'affaire du Sofitel de New York, hein, où, je le rappelle, Dominique Strauss-Kahn avait été mis en cause et accusé d'avoir violé Nafissa Diallo. Régis Joffray a décidé d'en faire un roman immédiatement poursuivi par Dominique Strauss-Kahn, parce que tout le dernier chapitre décrivait la scène du viol. Or, la procédure new-yorkaise avait abouti à un non-lieu. Donc, c'est exactement ce qu'on appelle une diffamation. Hein. On impute un fait précis à Dominique Strauss-Kahn. Or, dans la réalité, hein, il est impossible d'apporter la preuve que Dominique Strauss-Kahn a violé Nafissa Diallo. Donc, Dominique Strauss-Kahn a assigné Régis Joffray en justice, hein, pour diffamation. Et dans tout le procès, hein, j'ai été vraiment frappée de voir à quel point il était question d'une analyse vraiment au plus près des mots pour savoir à la fois si la scène décrite était un viol. Hein, donc il y a dans la décision de justice tout un travail sur la caractérisation. Donc ici, c'est la citation 14. Qu'est-ce qu'on peut lire, hein, donc, toutefois, force est de constater que tant dans la nature de la scène décrite dans le dernier chapitre que la sémantique utilisée, dont l'utilisation même à trois reprises du terme de viol, exclut l'hypothèse de la simple narration d'une relation sexuelle consentie entre deux adultes amateurs de rapports brutaux ou de jeux de soumission et de domination. De fait, les verbes ou les modes verbaux choisis traduisent tous une violence unilatérale de la part de l'homme et une résistance de la part de la femme. Et là, la décision cite le passage pour montrer que du point de vue de la caractérisation, on ne peut pas dire ici que c'est une relation sexuelle consentie, mais que c'est bien un viol. Donc un premier travail, vraiment au plus près des mots, on va relever, tous les mots qui permettent de donner une signification à la scène qui est décrite, à savoir non pas une relation sexuelle consentie, mais un viol. Donc un travail de relevé lexical ici pour voir comment on caractérise dans le roman. Et puis, il y avait aussi dans cette décision, une réflexion sur la question du point de vue. Puisqu'il y a une scène de viol qui est décrite, est-ce que cette scène de viol est représentée comme étant vraie, comme étant ce qui s'est passé dans la suite du Sofitel, ou bien, au contraire, est-ce que cette thèse du viol peut être présentée comme étant, la question est celle du rapport à la vérité. Est-ce que ce viol est présenté comme le point de vue de Nafissa Toudialo et la défense a essayé d'argumenter en ce sens en disant il y a un viol qui est décrit dans le dernier chapitre, mais ce roman met en scène plusieurs points de vue. Donc il ne s'agit pas d'affirmer qu'il y a eu viol, mais ici simplement d'adopter le point de vue de Nafissa Toudialo. Voilà quel était l'argument de la défense. Et donc, le tribunal a justement tranché en se demandant si on pouvait considérer que dans ce roman, on avait une juxtaposition de points de vue, ou si au contraire, on avait le point de vue d'un narrateur omniscient qui présentait comme étant vrai tout ce qu'il racontait. Donc ici, je vous laisserai lire la citation tout seul. Il est question de prétendue subjectivité du dernier chapitre, où c'est le point de vue de Nafissa Toudialo. Et on retrouve une catégorie linguistique qui est la question de la prise en charge de l'énoncé et qui est très souvent mobilisée au tribunal. Ils vont développer une véritable analyse, on peut dire, de linguistique textuelle ou d'analyse du discours, plutôt, où ils vont relever un certain nombre de marques de l'énonciation, de la subjectivité, pour voir si oui ou non le locuteur assume les propos qu'il tient, s'il les assume, ou s'il les présente comme vrais. Donc la question du rapport à la vérité est fondamentale, et c'est la raison pour laquelle on peut voir des analyses qui s'apparentent à des analyses stylistiques. Enfin, pour terminer, je voudrais juste dire deux mots sur le fait que tous les juristes interrogés disent bien que le style peut apparaître comme un bouclier juridique, mais pas au tribunal, mais dans leur travail de conseil des romanciers. Puisqu'il y a, vous le savez sûrement, dans les maisons d'édition, des services juridiques qui jouent un rôle de plus en plus grand en amont de la publication. Et donc qui réécrivent en quelque sorte, qui demandent aux auteurs de réécrire certains passages qui pourraient, aux yeux de la loi, être condamnés. Donc il y a bien un bouclier possible, des stratégies de contournement de la censure et une forme d'autocensure qui est pratiquée par les maisons d'édition par le biais de ces services juridiques. Et quand on lit les décisions de justice, quand on interroge les avocats, on peut faire une liste d'un certain nombre de critères stylistiques qui semblent pouvoir protéger davantage les auteurs que d'autres. Notamment, par rapport à la question de la diffamation, en droit, on va mesurer... ça fait vraiment partie de la façon dont on observe une diffamation en droit. La question de la prudence de l'expression, c'est fondamental. Il faut que si on peut prouver qu'un auteur a diffamé, mais avec une expression prudente, ça va être une circonstance atténuante. Et précisément, dans les décisions de justice, on peut voir que, par exemple, pour l'affaire Strauss-Kahn, la question de la prudence de l'expression de Régis Geoffrey a été débattue. Et donc, les avocats qui conseillent lors de la relecture des manuscrits disent tous qu'ils vont aller observer les mots pour voir s'il y a une prudence de l'expression. Donc, par exemple, savoir si on va avoir des temps de l'indicatif, un futur plutôt qu'un conditionnel. Donc, toute une série de postes d'observation linguistique extrêmement précis qui font partie de leur protocole de lecture en amont d'une publication. Je parlais de la prise en charge, de la question de la prise en charge. Il y a aussi un travail fait par les avocats à partir du moment où on a un propos antisémite ou bien anti-musulman, un propos qui incite à la haine, un travail de distanciation par rapport au locuteur. Donc de distanciation par rapport au locuteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire en sorte que le locuteur ne prenne pas en charge cet énoncé. Donc on peut introduire des italiques, des guillemets, introduire toutes les marques de la polyphonie énonciative que les linguistes connaissent bien, qui peuvent aussi évidemment être liées au contexte. Donc je voulais dire, on voit bien ici que la question du style est une question qui a certes une place au tribunal, qui est presque une place plus magique qu'autre chose, mais en amont de la publication, le style peut être considéré comme un bouclier juridique, non pas en tant que valeur artistique, mais plutôt en tant que forme. Il y a des formes qui sont plus répréhensibles que d'autres, et même dans les romans. Autrement dit, donc il y a quand même des critères objectivables, stylistiques, qui permettent de prévoir si un roman est plus condamnable qu'un autre. Notamment, on peut parfois s'interroger sur le fait qu'un auteur comme Emmanuel Carrère n'a jamais été condamné, alors qu'il ne cesse de dire du mal de sa famille dans un roman, ou bien il écrit sur un fait divers, comme l'a fait Régis Joffray. Mais lui, il le fait toujours dans une fiction qui est très interrogeante, où il s'interroge toujours sur le rapport à la vérité de ce qu'il dit. Et d'un point de vue juridique, alors d'un point de vue littéraire, on en pense ce qu'on veut, mais d'un point de vue juridique, c'est un véritable bouclier, puisqu'il a un rapport à la vérité qui n'est pas du tout, qui est beaucoup moins affirmatif qu'un Régis Joffray qui affirme connaître ce qui s'est passé dans la suite du Sofitel. Donc voilà pour les quelques hypothèses sur les manières d'écrire qui, d'après ce qu'on lit dans la jurisprudence, paraissent davantage protégées des auteurs à l'heure actuelle. Voilà, j'en ai fini.